Le journal est présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Que valent les cessez-le-feu en Syrie comme ailleurs? Une pluie de missiles a ciblé en début d'après-midi une réunion de chefs djihadistes au nord d'Idleb. Nous serons en ligne dans un instant de Beyrouth. Également au sommaire, le récit des affrontements qui ont éclaté à Hong Kong lors d'une manifestation pro-démocratie interdite par les autorités. Les mobilisations dans des dizaines de villes britanniques contre la suspension du Parlement. Et puis en France, le bilan enthousiasmant de 2 ans et demi d'expérimentation du territoire zéro chômeur de longue durée. Le cessez-le-feu décrété hier soir, cessez-le-feu unilatéral par Moscou dans la province d'Idleb, aura-t-il participé d'une ruse susceptible de faciliter les tirs de missiles sur une réunion de chefs de groupes djihadistes, une réunion dans un camp d'entraînement fréquenté par les recrues de Ouras al-Din et Ansar al-Tawhid, au moins 40 gradés tués selon un bilan provisoire. Nous sommes comme convenu en ligne de Beyrouth avec notre correspondante Laure Stéphan. Bonsoir Laure.
Bonsoir.
Commençons peut-être par rappeler dans quel contexte le cessez-le-feu en question a été décrété.
Oui, tout à fait. C'est donc la seconde trêve qui est annoncée en un mois pour la région d'Idlib, cette zone du nord-ouest de la Syrie soumise depuis fin avril à une offensive des forces pro-régime. Le premier répit avait été décrété par Damas. Cette fois, c'est la Russie, vous l'avez dit, donc le parrain du régime syrien qui a déclaré un cessez-le-feu unilatéral. Ce n'est sans doute pas un hasard, celui-ci est entré en vigueur quelques jours après une rencontre à Moscou entre Vladimir Poutine et son homologue turc. Ils avaient affirmé vouloir apaiser la situation à Idlib. Moscou met constamment en avant la présence de groupes radicaux dans cette région, contrôlés par des djihadistes et des rebelles. Ankara, de son côté, s'est retrouvée dans une situation risquée depuis que l'un de ses points d'observation dans le nord-ouest syrien a été encerclé par le régime il y a une dizaine de jours. Alors la Russie participe aux violents bombardements aériens qui jusqu'à cette nuit ont frappé cette région où se concentrent près de 3 millions de civils. Mais dans le même temps, Moscou ne peut pas totalement braquer Ankara sur le théâtre syrien. Ce cessez-le-feu pourrait donc être un gage donné à la Turquie en amont d'une réunion prévue en septembre.
Laure Stéphan, est-ce que le régime syrien a intérêt à un cessez-le-feu de longue durée ?
Ce qui est sûr, c'est que les civils de la région d'Idlib, même s'ils tentent de profiter du répit offert depuis quelques heures, doutent de la pérennité de la trêve. Il faut dire que la précédente avait duré moins de 4 jours et elle s'était révélée avant tout comme un choix tactique. Le régime a avancé au sol au cours de ce mois. Ses troupes ont pris la ville de Khan Cheikhoun. C'était le premier gain majeur des loyalistes. Mais ces avancées se font au prix de lourdes pertes humaines dans les rangs des soldats et des milices affiliées. Et en acceptant de cesser le feu, Damas s'est montré réservé, assurant par le biais de son agence officielle de presse se préparer, je cite, à répondre à toute violation des terroristes. C'est le terme qui désigne djihadistes, rebelles ou opposants pour le régime. Vous parliez tout à l'heure de frappes au moyen de missiles contre des combattants affiliés à Al-Qaïda. Le Pentagone vient de confirmer avoir mené des frappes. Il n'a pas précisé encore sur quelle zone. Mais cet après-midi, l'Observatoire syrien des droits de l'homme avait affirmé que 2 groupes avaient été touchés près de la ville d'Idlib et perdu près de 40 hommes. Cette attaque ne devrait pas faire vaciller le cessez-le-feu.
Merci à vous, Laure Stéphan, en direct de Beyrouth. Comme chaque samedi depuis la mi-juillet. Manifestation à Moscou des opposants au Kremlin. Ils étaient des centaines à demander la libération des prisonniers politiques et à contester l'éviction des candidats de l'opposition aux élections locales. Hong Kong vient de vivre l'une de ses plus violentes, et elles furent rares, l'une de ses plus violentes journées de contestation depuis le début du mouvement initié il y a 3 mois par les organisations pro-démocratie. Dans un premier temps, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans le calme, après quoi des affrontements avec les forces de l'ordre ont éclaté devant le Parlement local. Le récit à Hong Kong de Florence de Changy.
Après quelques heures de manifestations ordonnées et civiles qui a vu des dizaines de milliers de citoyens braver l'interdiction de manifester en descendant dans les grandes rues de l'île de Hong Kong, le chaos attendu est arrivé. Gaz lacrymogène autour du Parlement, cocktail Molotov, canons à eau teintés d'agents marqueurs, l'ambiance a basculé et les rues de Hong Kong sont devenues le terrain de jeu des manifestants les mieux équipés. Wilson Lam, que l'on confondrait presque avec un Navy Seals, fait partie des attaquants, les frontline, ceux qui ont pour mission d'aller au contact des policiers.
Oui, c'est un gilet pare-balles, mais on a rajouté des plaques en acier à l'intérieur pour renforcer le gilet et pour me protéger. Oui, parce que nous, on est la front line, on n'est pas derrière, mais on est très en colère. Donc, notre rôle, c'est de protéger les civils avec notre force. Nous voulons que personne ne soit attrapé, personne ne soit blessé ou tué, et rien ne nous fait peur.
Les heurts ont continué tard dans la nuit. Réaction du gouvernement. Il serait irresponsable de relancer des réformes politiques dans ces conditions. C'est peut-être pourtant la seule chose qui pourrait calmer le jeu.
Dans 32 villes du Royaume-Uni, dont Londres, l'incrédulité puis la rage contre la suspension du Parlement jusqu'au 14 octobre, décision prise par le Premier ministre Boris Johnson, qualifiée de coup d'État par celles et ceux qui lui reprochent de jouer la souveraineté du peuple contre les institutions. Le reportage à Londres de Marina Daras.
Aujourd'hui, les Britanniques sont descendus dans la rue pour protester une fois de plus contre le gouvernement. Mais cette fois-ci, on n'entend plus tellement de disputes pour ou contre le Brexit, mais un vrai engouement pour empêcher le gouvernement de prendre la démocratie en otage. Tom a 34 ans, il était devant Downing Street cet après-midi.
Bien que ce soit constitutionnellement légal de suspendre le Parlement, ce n'est pas dans l'esprit de la démocratie, ce n'est pas moralement correct. Et je pense que la seule façon de montrer que c'est moralement répréhensible, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de gens qui pensent de cette façon. Il reste toujours du temps pour agir jusqu'à ce qu'il ne reste plus de temps.
La colère est bien plus visible aujourd'hui qu'elle ne l'a été lors des précédentes manifestations sur le Brexit. Entre deux huées, les Britanniques réclament la démission immédiate de Boris Johnson. Pour Bejena, sa décision de suspendre le Parlement marque un tournant historique très triste dans l'histoire du Royaume-Uni.
C'est une travestie absolue que quelqu'un pense qu'il puisse suspendre le Parlement en période de crise nationale. Nous n'avons rien eu d'aussi important depuis la Seconde Guerre mondiale et les députés n'ont pas eu la possibilité de se faire entendre. Les députés sont des élus, personne n'a élu cet homme, mais on verra au cours des prochaines semaines ce que l'on peut faire. L'usage parlementaire est très complexe, donc on fera ce qu'on pourra.
C'est l'un de ces moments de l'histoire où il faut se lever et faire entendre sa voix. Je veux pouvoir dire plus tard que j'étais là et que j'ai vraiment fait quelque chose pour empêcher ça. Et si on soutient nos députés, alors on a plus de chances.
Une semaine décisive se prépare pour le Royaume-Uni alors que les députés s'apprêtent à lancer des procédures d'urgence contre le gouvernement.
Reportage de Marina Daras à Londres. Près de 2 millions d'habitants de l'état de l'Assam au nord-est de l'Inde déchus de leur nationalité par la Cour suprême. La plupart d'entre eux, désormais apatrides, sont de confession musulmane. C'est le parti du Premier ministre, le BJP, qui est arrivé au pouvoir dans l'Assam en 2016, qui a supervisé ces opérations de recensement programmées par la plus haute juridiction du pays. Cette information qui nous est parvenue un peu après 17 heures, deux hommes, l'un armé d'un couteau, l'autre d'une broche de cuisine, ont tué une personne, en ont blessé six autres cet après-midi. Au niveau du métro Laurent Bonnevet de Villeurbanne, indique la préfecture. L'un de ces deux hommes était interpellé, l'autre est activement recherché. Une cinquantaine de pompiers se trouvent sur place. Un dispositif qui a fait ses preuves n'attend plus que le feu vert du gouvernement, le territoire zéro chômeur de longue durée dont les acteurs étaient réunis ce matin à Paris. Expérimenté depuis 2016, il permet l'embauche de chômeurs de longue durée en CDI au sein d'entreprises à but d'emploi, c'est-à-dire qui n'ont pas pour ambition de réaliser des bénéfices. Cette approche fonctionne et fonctionne bien, selon Laurent Grand-Guillaume, président de Territoire Zéro Chômeur.
En près de deux ans d'expérimentation, on a embauché 850 personnes sur des micro-territoires en contrat à durée indéterminée, qui avaient une durée moyenne de chômage de 54 mois, c'est-à-dire plus de 4 ans, et sur des activités de transition écologique, sociale, sur l'économie circulaire, le maraîchage, l'économie de proximité, les services à la personne, donc pour des activités finalement qui n'existaient pas dans les territoires. Donc ça marche sur le plan des embauches, ça marche sur le plan des activités qui se développent. Franchement, c'est une réussite qu'il faut l'étendre maintenant à d'autres territoires et c'est pourquoi nous appelons au vote d'une deuxième loi qui étendrait l'expérimentation à une centaine de nouveaux territoires avec qui nous sommes en contact, hein, qui sont prêts. Encore faut-il que cette loi puisse être votée et donc nous sommes optimistes puisqu'il y a une volonté politique, on sent. Maintenant, ce que l'on attend, c'est cette étincelle qui permettra justement d'avancer plus loin. À l'époque, on nous avait dit que nous allions recevoir un courrier de la ministre du Travail nous indiquant un calendrier clair. Donc ça, c'était le 18 juin et nous attendons toujours. On espère quand même que ça va se faire vite parce que il y a urgence à y aller, franchement.
Des propos recueillis par Adrien Paluet. 10 territoires sont concernés par cette expérimentation. 200 autres seraient intéressés pour lancer leur projet. Territoire zéro chômeur de longue durée. La météo de demain dimanche en quelques mots, de nouvelles ondées dans le sud et l'est de la France. Tandis que le temps sera plus calme et ensoleillé dans le nord-ouest, température minimale comprise entre 9 et 14 degrés en Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. 13 à 19 sur le reste du pays, de 17 à 22 près de la Méditerranée. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau, à la technique Cindy Le Grumelec.